Mémoire d'un continent.
Elikem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Histoire générale de l'Afrique et histoire des nations africaines. Convergence ou divergence ? L'histoire de l'Afrique, comme l'histoire des grands ensembles politiques et géographiques, peut s'écrire évidemment de différentes manières et à plusieurs échelles. Dans le cas de l'Afrique, d'ailleurs, lorsque l'histoire générale de l'Afrique a été conçue et pendant toute la période de son élaboration, on a beaucoup discuté de géographie. Est-ce que c'était toute l'Afrique, d'Alger jusqu'au Cap et des îles de l'Atlantique jusqu'aux îles de l'océan Indien, ou est-ce qu'il ne fallait pas découper cette Afrique en des morceaux qui soient significatifs et pertinents? Par exemple, disait-on, l'histoire de l'Afrique noire opposée, enfin différente, de l'histoire de l'Afrique au nord du Sahara. D'autres disaient encore que dans l'histoire du continent africain, il y a eu quand même plusieurs siècles pendant lesquels les Africains ont été déportés à travers la Méditerranée, à travers l'Atlantique, à travers l'océan Indien. Fallait-il inclure ces personnes, ces groupes sociaux dans une histoire de l'Afrique ou non? Fallait-il s'en tenir simplement aux Africains du continent? Et encore, autre question, l'Afrique a eu des États, des systèmes politiques très variés dans le passé, systèmes qui d'ailleurs étaient de nature, de structure d'étendue extrêmement variable. Comment faire pour intégrer ces unités dans un ensemble aussi vaste qu'un continent? Et d'autres encore disaient, la meilleure manière de faire cette histoire, notamment pour l'enseigner, c'est de partir depuis la très 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 longue durée d'un certain nombre de figures, de personnes, d'hommes et de femmes, qui ont incarné des moments, des techniques, des croyances, des pratiques politiques, et faire de ces personnes un peu le fil conducteur de notre histoire. Alors, tous ces débats, au fond, ont permis quand même d'avoir l'histoire générale de l'Afrique que tout le monde connaît aujourd'hui avec ses 8 volumes et les volumes qui viennent. Mais au niveau des histoires nationales, on est resté, assez pauvre, un peu timoré. C'est pas facile à faire, bien sûr. Il faut du courage, il faut mobiliser les personnes. Parfois d'ailleurs, les conditions politiques ne se prêtent pas à l'écriture d'une telle histoire. Et donc, nous avons un monument qui est une exception, puisque c'est l'histoire d'un État, d'un pays africain qui est devenu un État aujourd'hui, et dont les auteurs d'ailleurs n'ont pas voulu parler de l'État. On pourrait écrire l'histoire du Sénégal, l'histoire du Cameroun, l'histoire du Tanganyika, du Kenya, ou l'histoire du Togo. Le livre est intitulé « Histoire des Togolais ». Donc on part des sujets, des hommes et des femmes qui font cette histoire, et cela des origines aux années 1960. Le maître d'œuvre de cet ouvrage est un historien en quelque sorte fondateur, Nico Egaïbor. Bonjour, vous êtes l'un des premiers historiens togolais. Vous avez démarré votre enseignement à l'université de Lomé, qui s'appelait d'ailleurs, je crois, Université du Bénin, puisque le Bénin n'est pas que notre Dahomey, c'est toute cette région. Bon.
Voilà, c'est un héritage commun.
Héritage commun.
Voilà, entre de la Volta jusqu'au Niger, à tout cet espace-là.
Vous avez été aussi président de cette université et vous avez coordonné ce livre avec de très très nombreux collaborateurs sous votre direction. Alors, une première question, est-ce que c'est facile de faire l'histoire du Togo? Alors, certains vont dire c'est un petit pays comparé,
au
Zaïre, au Congo démocratique, à l'Angola, au Nigeria qui n'est pas très loin. Ouais. Mais la taille ne veut pas dire une faible complexité. Peut-être que ça devient plus complexe dans la petite taille.
Oui, évidemment, faire cette histoire n'a pas été facile. Et d'ailleurs, je replace ce travail-là dans le travail d'un historien tout court. C'est-à-dire, les méthodes historiques ont été appliquées à fond, et particulièrement pour une bonne partie de cette histoire qui est basée uniquement sur les sources orales. Donc là, vous voyez ce qu'il faut. Il faut aller sur le terrain, il faut appliquer des méthodes qu'il faut, il faut aller jusqu'au bout des choses et parfois des interrogations qui ne trouvent pas de réponse, puisque l'archéologie n'est pas très développée encore dans le pays pour qu'on puisse avoir de quoi meubler, n'est-ce pas, les grandes nuits dans cette chaîne de documentation qui permettent de réécrire cette histoire.
On admire aussi le fait que il y a tout un débat partout dans le monde. Est-ce qu'il faut faire des histoires nationales abstraites, histoire de la France, histoire de l'Angleterre, histoire des États-Unis, ou au contraire aller au sujet de cette histoire, histoire des Togolais comme vous la faites. Pourquoi des Togolais et pas du Togo?
C'est très simple, c'est que nous n'avons pas voulu écrire l'histoire d'une nation ou d'un État, mais l'histoire des peuples. Hein, de cette nation. Et la manière la plus simple, c'est d'aller vers les peuples hein, qui composent cette nation et de leur tendre le micro. C'est ce que nous avons fait. Il y a même des chapitres sur la vie quotidienne des Togolais, sur la colonisation, la vie quotidienne des Togolais à telle ou telle période, etc., etc., qui prouve bien que notre préoccupation essentielle, ce n'est pas l'armature étatique. Si, on l'a également étudié. Mais le plus important pour nous, c'est de laisser parler les gens, c'est de voir comment les gens vivent, c'est de voir comment ils mettaient... Surtout, dans la partie choses orales, vous voyez comment les gens maîtrisent eux-mêmes leur histoire, même si c'est une histoire retravaillée en fonction de leurs besoins actuels. Mais on voit tout le génie de ces gens quand ils essaient de tirer vers eux la couverture en disant « notre ancêtre a fait ceci, a fait cela » et c'est de cela que nous nous réclamons pour dire que nous sommes ceci ou cela. C'est très important pour l'historien, non pas pour dire que, bon, voilà, des gens qui dévoient l'histoire et puis on les suit. C'est pas ça. Je tiens à dire ici, et ça c'est bien connu, hein, que l'histoire que nous présentent les traditionnistes n'est pas encore de l'histoire. Il faut que l'historien s'essaye à cette histoire-là, la retravaille, la confronte, en fait, mène une critique très, très poussée pour en tirer matière à l'histoire.
Alors dans cette histoire, il y a donc la question des sources est réglée par les traditions orales comme les sources écrites, ce sont des matériaux que les historiens travaillent. Alors maintenant, l'autre question c'est la question de la chronologie. Donc il y a 4 volumes qui correspondent à 4 périodes différentes. C'est pas facile de faire la chronologie de nos états. Certains disent simplement pré-colonial, colonial. Vous avez 4 moments que vous avez distingués, chacun d'eux ayant une signification propre.
Particulière. Bien, alors, pour les 4 volumes, le premier volume s'intéresse à l'histoire des origines, de l'histoire des origines jusqu'à l'histoire du peuplement, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la mise en place de l'essentiel du peuplement, donc 16e, fin 16e, début 17e siècle. Et puis ensuite, le second volume est consacré à l'histoire de ce que nous appellerons l'arrivée des Européens, la traite négrière, les bouleversements politiques territoriaux qui s'en sont suivis, jusqu'à l'arrivée du colonisateur. Alors, le troisième volume est intitulé « Le Togo sous domination coloniale ». Et là, on étudie les transformations introduites par la colonisation. Et enfin, le dernier volume s'intéresse à ce que nous appellerons les mouvements de conquête de l'indépendance. Donc, c'est intitulé « Le refus de l'ordre colonial ». Donc, voilà comment nous avons subdivisé les 4 volumes pour avoir du champ, pour pouvoir vraiment nous exprimer comme il faut. Parce que chaque volume fait un peu plus de 700 pages. Donc, ça permet vraiment d'aller au fond des choses. Quoique, bon, nos prévisions font que maintenant, au lieu de ces 4 volumes, nous en irons à 6. Parce que maintenant, évidemment, la recherche évoluant, et puis à partir des critiques qui nous ont été faites, etc., nous avons déjà réécrit un certain nombre de chapitres qui seront réintroduits maintenant à la prochaine réédition.
Si on prend le premier volume, dans certains cas, dans d'autres pays, les gens avaient peur que si on étudie l'histoire de la mise en place de ces populations, que ça ne soulève peut-être des récriminations, des désirs de revanche, tout ça. Mais finalement, l'histoire telle que vous la faites, c'est donc à partir des traditions travaillées par les historiens, et vous allez peut-être pas mal du côté de l'histoire des civilisations. Est-ce que finalement, les traits communs ne l'emportent pas peut-être sur les particularités beaucoup trop spécifiques?
Bien entendu, parce que en fait, les populations togolaises ont cette particularité que ce qu'on peut appeler la région méridionale, n'est-ce pas, qui va de l'Atlantique jusqu'à une profondeur de 200-300 km, est constituée par une population qui se réclame d'une même civilisation qui est de celle de Tado, les origines. Tout comme d'ailleurs, hein, cette histoire évidemment hein, pourfend les frontières. Nous allons de la Volta jusqu'au Yewa et au Nigeria. Hein, parce que c'est le même groupe de population qui se réclame d'une origine commune et d'ailleurs qui se voit au niveau de la civilisation, puisque c'est la même langue hein, déclinée en 9 dialectes. C'est les mêmes origines qui sont répétées, hein, notamment l'origine de Tado. Hein, c'est la même histoire, puisque c'est le même pouvoir politique. Parce que les origines de ce pouvoir politique viennent du monde Yoruba. Parce que nous avons été, cette région a été fortement influencée par le monde Yoruba. Ça ne veut pas dire qu'ils sont Yoruba, non, mais nous parlions tout à l'heure de la civilisation du Bénin, de Benin City, qui couvre toute cette région. Hein, c'est en parlant comme ça que je parle donc d'une sorte d'unicité dans cette civilisation, dans le sud. Par contre, au nord, c'est beaucoup plus éclaté. Nous avons une dizaine de groupes de civilisations dont les plus importants sont le groupe de Chaujo, les Tem. Hein, un peu plus au nord de ceux-ci, nous avons les Anoufom, hein, dont le stock originel vient de la Côte d'Ivoire. Un peu plus au nord, nous avons les Gourmands qui se sont singularisés ici en de petites civilisations, etc. Donc, que nous appelons les civilisations du bassin de l'Oti. Hein, l'Oti est un fleuve qui coule donc au nord du Togo. Donc, si bien que nous avons procédé comme cela en étudiant de façon globale les populations du Sud, puisqu'ils se réclament de la même civilisation, et puis en remontant au Nord, nous essayons de singulariser les choses en partant des origines. Par exemple, quand on prend le cas du Chaujo, par exemple, les ancêtres fondateurs sont venus du pays gourmand, et ensuite, ils sont descendus vers la plaine pour se mettre sur la route de la Kola, qui prend le Togo en écharpe. Hein, partant donc du pays Ashanti jusqu'au nord du Nigeria. Donc ils sont venus s'installer le long de la voie de la route de la Kola et ont été, disons, et se sont métissés avec les marchands musulmans, les Touré, les Traoré, etc., qu'on retrouve ici. Hein. Donc c'est ça, on a essayé de particulariser chaque groupe pour donner, pour montrer ce qu'il avait de particulier par rapport aux autres.
Le professeur Nikoué Gaïbor avec nous pour parler de l'histoire du Togo, une histoire dont il a dirigé l'écriture en 4 volumes. Nous en venons à cette période un peu difficile qui ressurgit chaque fois dans les discussions que l'on a. Comment écrire l'histoire, disons, de la période de la traite négrière ? Dans la perspective qui est la vôtre, qui est donc de donner à voir aux citoyens d'aujourd'hui comment la nation togolaise, le peuple togolais s'est construit à travers l'histoire.
Oui, à partir du XVIe siècle, les contacts ont commencé avec l'Europe. Ah, les premiers Portugais qui ont visité notre côte sont venus en 1472. Ah, et à partir de là, donc, les contacts ont été réguliers jusqu'à la fin de la période de la traite négrière. Donc rapidement, vous savez, cette région aussi a été malheureusement dénommée la côte des esclaves, n'est-ce pas ? Et c'est pas pour rien. Et donc, nous distinguons dans cette côte des esclaves deux parties. Hein, la partie du côté du Dahomey actuel, avec Ouidah comme épicentre, Hein? Et puis de ce côté-ci, du côté du Togo, il y avait donc Aného, qui était le port négrier du royaume de Gligi, qui se trouvait à quelques dizaines de kilomètres à l'intérieur. Donc à partir de là, c'est instauré donc, sur cette côte, ce qu'on a appelé, n'est-ce pas, le commerce négrier, avec les mêmes règles que partout ailleurs. Et un peu plus au nord, il y a eu aussi là-bas le commerce de la cola, hein, avec les routes caravanières. Donc c'est ainsi que ça fait la distinction, encore que entre ces deux groupes de civilisations, il y avait très peu de contacts à l'époque. Si bien qu'au moment de la période allemande, il y avait un no man's land sur une cinquantaine de kilomètres qui séparait les groupes du nord et du sud totalement. Et il a fallu que les Allemands créent des villages, et puis alors ensuite les Français, créent des villages de peuplement sur cette route-là pour faire descendre les populations du nord pour venir les occuper. Donc sinon, pendant cette période précoloniale, il y avait une nette distinction entre les populations du nord, du sud, qui regardaient vers l'est et vers l'ouest pour toutes leurs transactions et pour leurs relations humaines, puisque la plupart des populations du sud, du moins en majorité, leurs origines sont à trouver notamment au Ghana actuel, la côte de l'or, d'où sont venues, par exemple, les populations guin qui habitent dans la région d'Aného et de Gligi, ou alors ils sont venus de plus loin, de Elmina, également dans cette même région. Donc, dans leur tradition, dans leur relation, dans leur rapport avec des parents plus ou moins proches ou lointains, ils regardaient donc de part et d'autre, alors que dans le même temps, donc les évêques qui étaient également dans la région regardaient plus du côté de leurs frères qui étaient vers le Dahomey actuel, vers le Bénin actuel. Il n'y avait pas de relation avec les populations septentrionales parce que le cas ne s'est pas présenté. Donc en dehors des produits de la traite qui traversaient certaines routes, qui prenaient certaines routes pour aller vers le nord, routes qui étaient connues, sur lesquelles il y avait, par exemple, le sel, comme produit essentiel, qui partait du sud pour aller vers le nord, et de là descendaient évidemment les esclaves, par exemple, la plupart du temps. Donc, en dehors de cette route-là, il y avait très peu de contact, au fond, entre ces deux types de populations.
Professeur Gaïbor, pour finir sur cette période, évidemment il y a eu la déportation massive des gens qui partaient pour ne jamais revenir, mais dans cette région de l'Afrique, l'Angola c'est un cas différent parce qu'il y a une colonisation. Dans cette région, il y a eu, comment dire, le retour d'un certain nombre d'Africains, fils d'Africains, petits-fils d'Africains, parfois des métis, qui sont revenus de l'Amérique, en particulier du Brésil, et qui ont profondément marqué cette région, en particulier le Togo, peu moins aussi, enfin, un peu le Bénin. C'est un apport important dans la formation de la culture, des pratiques alimentaires, oui, de beaucoup de choses.
Oui, c'est une partie que nous traitons dans le volume 2, qui traite donc du 16e siècle jusqu'à l'occupation coloniale. Donc, au 19e siècle, nous avons ce retour massif d'un bon nombre d'esclaves libérés et même d'authentiques portugais, brésiliens, qui sont donc venus s'installer sur la côte. Et à partir de là, malheureusement, la plupart, ils ont repris la traite des esclaves, qui est devenue donc maintenant clandestine. Et les cargaisons étaient souvent parquées dans des caches ou alors dans des lieux où on les faisait cultiver la terre en attendant le passage d'un navire qui pouvait les embarquer subrepticement à l'abri de la navire de la croisière anglaise. Alors ainsi, par exemple, il y a un village typique qui s'appelle Atueta, qui est constitué d'une cargaison d'esclaves qui n'a jamais pu prendre la mer, qui est là actuellement, avec beaucoup de traditions afro-brésiliennes qui y sont, l'art culinaire, l'art tout court, les danses, etc., qu'ils ont conservé. Par ailleurs aussi, donc, ce mouvement est beaucoup plus important au Bénin, c'est-à-dire au Dahomey, qu'ici, qu'au Togo. Au Togo, ils sont en train carrément de s'éteindre actuellement, alors qu'au Bénin, ils sont encore très vivants. On les retrouve encore, et surtout aussi dans l'architecture, on retrouve plein de choses qu'on n'a pas connues et qu'on ne connaît pas au Togo.
Merci à vous, professeur Gaïbor, pour cet éclairage sur la période, disons, relativement peu connue de l'histoire du Togo. Nous reviendrons prochainement à vous pour la suite qui n'est pas moins fascinante. Merci à vous. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent, réalisée Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.